C'est notre rendez-vous du mercredi avec Émile Procloutier. Bonjour.
Bonjour.
Et, bon, on parle de transition énergétique. Ce matin, tu nous proposes une lecture.
Oui, en fait, je me disais, dans le débat actuel, souvent, c'est... bon, d'abord, on sait tous que c'est une question complexe, puis c'est un enjeu qui est planétaire. Puis souvent, on va dire, ben là, on est qui au Québec, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, là, je pense que la réponse courte à ça, c'est chaque nation peut agir à sa mesure. Mais très souvent, dès qu'il y a une solution ou une piste de solution qui est proposée, il va se trouver quelqu'un pour dire, oui, mais là, wow, ça, là, ça réglera pas le grand problème. Comme si, évidemment, parce qu'il n'y a pas une seule solution qui va régler le grand problème. Et l'autre élément du débat qui est un peu vicié, c'est que souvent on se dit, mais là, c'est-tu aux individus à changer? C'est-tu d'abord le gouvernement? C'est-tu les industries qui doivent prendre la tête de cette marche-là? Qui doit agir en premier? Ça repose...
Comme j'entends des fois, la Chine ne fait pas grand-chose, pourquoi je ferais quelque chose?
Effectivement, mais il y a ça à petite échelle aussi. On va se dire, oui. C'est le gouvernement, c'est la ville, c'est pas moi. Et puis, donc, il y a un regroupement d'organisations qui sont une soixantaine. Là-dedans, oui, il y a des groupes écologiques, mais il y a aussi des syndicats, il y a la FTQ, l'Union paysanne, des économistes aussi. Il s'appelle le Front commun pour la transition énergétique, qui propose un document, c'est une cinquantaine de pages, et c'est une feuille de route. Est-ce que vers un Québec qui serait carboneutre, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre net. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émissions du tout. Ça veut dire qu'on a suffisamment réduit pour que ce qu'on émet comme gaz à effet de serre, c'est compensé par la nature. C'est-à-dire qu'on on arrive à quelque chose qui est équilibré et viable. Donc, c'est une marche à suivre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi je voulais vous en parler, c'est que ça repose sur le principe d'interdépendance entre le gouvernement, les entreprises, les municipalités, puis les citoyens. Et ça dit pour chaque secteur, que ce soit le transport, le bâtiment, l'agriculture, les déchets, qu'est-ce qui repose sur les épaules de qui? Évidemment, moi, je peux faire des affaires dans ma cour, mon voisin peut faire quelque chose, évidemment, puis ça change selon là où tu habites. Mais tu peux voir pour une même question, qu'est-ce qui est dans les mains du gouvernement, qu'est-ce qui est dans les mains d'une grosse entreprise, puis qu'est-ce qui est dans tes mains à toi? Je donne un exemple. Mettons, en transport, on entend souvent que, bon, il faut inciter les gens à considérer d'autres moyens de transport que d'être seul dans leur voiture, que ce soit le transport en commun ou le transport actif, ce qui est une chose tout à fait louable. Par contre, sur la même feuille, dans le document, puis là, c'est très clair, quand tu vas dans la section... OK, ça, c'est la section citoyen, mais la section du gouvernement, ça dit... eux, ils doivent penser carrément à l'aménagement du territoire. Si tu habites dans un endroit où il n'y a tellement pas de densité de population puis que ça prend absolument ta voiture pour atteindre une pinte de lait, tu pourras pas convaincre le monde de varier leur mode de transport.
C'est pas une offre de transport haute.
Mais il y a aussi la façon dont le territoire est conçu. Il faut que le dépanneur soit proche, il faut que l'épicerie soit accessible. Tu as des déserts alimentaires encore au Québec dans certains endroits. Donc, ça te dit, OK, il y a des affaires qui reposent sur les épaules du citoyen et d'autres sur les épaules des décideurs. En termes de rénovation, certes, on peut encourager les citoyens à adopter des méthodes de construction ou de réno qui sont plus, qui ont des standards plus élevés, disons ça, dans le choix des matériaux. On avait parlé de maisons solaires passives il y a quelques mois, ce qui n'est pas tant des panneaux solaires, mais orientés plein sud.
Donc pour récupérer l'énergie.
Les rayons du soleil chauffent ta maison. Il y a du monde qui commence à le faire dans certains coins. Mais là, on pourrait aussi, les municipalités pourraient s'engager à se dire, si on ouvre un nouveau secteur, un nouveau développement, on pourrait décider d'orienter les rues en fonction de la position du soleil pour que tout le monde ait droit au soleil. Un ensoleillement qui est bénéfique pour la maison. Donc, ça montre les divers paliers de décision. Puis le document est assez clair pour ça, parce que pour chaque secteur, tu as évidemment ce que chacun peut faire. Tu as aussi des grandes lignes directrices sur la direction à adopter puis la direction à ne pas prendre aussi. Et ça te projette aussi dans un Québec, mettons dans 30 ans, mettons qu'on a réussi. Là. Mettons qu'on a réussi à être carboneutre en 2050. À quoi ça ressemble la vie? À quoi ça ressemble? Okay. Et puis, donc, c'est un document qui aide vraiment à réfléchir, puis je le trouve inspirant. Une autre affaire auquel moi, j'avais jamais pensé, mais par exemple, si dans le cadre des rénos, par exemple, on veut inciter les gens à utiliser des matériaux qui ont moins d'impact sur le plan environnemental ou qui ont des normes, des standards beaucoup plus élevés au niveau de l'isolation, c'est sûr que ça va coûter plus cher rénover ou le coût de la maison va être nettement plus cher. Mais si, sur le plan légal, les prêteurs hypothécaires sont obligés de tenir compte de la réduction des coûts de chauffage dans l'ensemble de ce qui va être payé par la personne. Tu dis un instant, l'emprunteur t'en demande beaucoup, mais ça va coûter moins cher par mois de chauffage, par exemple. Donc, quand tu évalues sa capacité de payer, il faut que tu tiennes compte de ça. Il y a un moment donné où ça ne peut pas être juste dans la cour du citoyen. C'est aussi au-dessus de sa tête que ça se passe. Puis le document montre cet équilibre-là et cette interdépendance-là. Il insiste aussi sur la nécessaire pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas reprocher au monde de ne pas être au courant de certaines affaires si tu ne leur as pas expliqué simplement. T'sais. Puis ça, c'est, il en parle comme d'une avenue importante à considérer pour le gouvernement. C'est-à-dire, comment est-ce que je... Pas tant de la propagande, mais juste d'expliquer des affaires de base aux gens. Que moi, ce que je vous parle depuis un an et demi avant, je n'étais pas au courant. T'sais. Donc, moi, c'est parce que je consacre du temps à apprendre ça, ces affaires-là. Mais je me dis, ça devrait être... L'information devrait être plus facile d'accès pour les gens. Et aussi, sur le plan de la gouvernance, c'est quand même un document qui est intéressant parce que ça pointe un des problèmes majeurs qu'on a en ce moment, qui est peut-être l'éparpillement dans la gouvernance, c'est-à-dire que s'il y a des actions parallèles d'un ministère à l'autre, ça peut finir par s'annuler. Il y a quelqu'un qui peut faire un très, très bon coup qui va réduire pas mal des gaz à effet de serre d'un côté, mais une décision qui se prend de l'autre bord.
Comme dit l'autre, quand tu vas en pharmacie puis tu as un paquet de médicaments à prendre, surveille les interactions.
Effectivement.
C'est parce que c'est le même corps. Là,
exactement. Qui... Et puis ça, ben, on a comme pas encore intégré ça. Des fois, on se dit, bon, ben, le ministère de l'Environnement va faire sa petite affaire, puis de l'autre bord, les transports peuvent venir prendre une décision qui va annuler une action intelligente de l'autre côté. Évidemment, le document insiste beaucoup sur la fin des subventions au secteur des énergies fossiles. Ça revient plusieurs fois, notamment comme source de financement pour une transition intelligente. Mais, et là, c'est ça que je voulais vous en parler, il y a tout un chapitre sur la transition juste. C'est-à-dire que tout ça, là, si on réussit à réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre au Québec et dans le monde, mais que ça pourrit la vie des gens, puis que ça rend la vie des travailleurs insupportable, puis que les familles tombent dans des conditions qui sont déplorables, ben c'est pas réussi. Et je trouve ça intéressant de dire que, OK, quand ils considèrent de faire cesser des subventions au secteur des énergies fossiles, ils se disent, par contre, on n'a pas le droit de laisser tomber les gens qui travaillent puis qui vivent de ça en ce moment, puis leur communauté. Et qu'il doit y avoir beaucoup de fonds investis dans le fait de leur assurer, eux,
Une transition,
une réorientation, ouais. soit une nouvelle formation, mais que c'est pas juste je te paye le cours, c'est je te permets de vivre pendant ce temps-là pour que ta famille en participe pas. Puis évidemment, on le voit, le secteur des emplois divers est beaucoup plus prolifique, disons, puis est en pleine croissance. Donc, à court ou moyen terme, c'est sûr que le pétrole, ça va descendre. Fait que je trouvais ça intelligent comme marche à suivre. Le document, il est clair pour du monde comme moi. Il peut être utile pour des profs ou que si vous avez des contacts à votre municipalité ou au gouvernement. Je trouve que c'est un outil de débat, c'est un outil de discussion qui est très fort. Il peut paraître idéaliste, mais en même temps, on peut aussi se poser la question, là, l'humanité a consommé en 211 jours en 2019 ce que la Terre peut renouveler en 365. 211 jours, on a déjà tout pris ce que la Terre peut renouveler en 365. Ça, c'est l'humanité au complet. Si tout le monde vivait comme des Canadiens, c'est le 18 mars qu'on aurait atteint cette espèce de limite-là. Donc, peut-être que c'est un peu idéaliste de penser qu'on peut continuer comme maintenant sans en payer le prix. Et le document, je vous invite à le lire, c'est au www.pourlatransitionénergétique.org. C'est vraiment bien fait, c'est très pédagogique. Et en même temps, c'est la version 1.0. C'est perfectible. Il invite le monde à dire, ben, écrivez-le.
Oui,
si vous avez des idées, des flashs ou des trucs que vous voulez soulever, c'est le temps, allez-y. Moi, je trouve ça intéressant que ça circule hors même de ces cercles-là puis que ça puisse aller dans des profs d'économie, je ne sais pas moi, des profs en aménagement du territoire et autres. Et donc, le document s'appelle « Pour un Québec zéro émission nette ». Puis je me dis, vous allez aimer ça, parce que si tu regardes les initiales, ça fait « Zéro émission nette », ça fait « Pour un Québec zen ».
En plus.
C'est pas pire, hein?
C'est très, très bien. Puis on va mettre le lien sur notre site web, bien sûr. Merci, Émile. À la semaine prochaine, 9h06.